C'est un contraste assez frappant que d'envisager un sermon de la fête sur la vocation de juge dans le monde de demain, tout en recevant une convocation pour faire partie du jury d'un tribunal, un groupe de pairs qui auront la responsabilité de juger un individu accusé d'un crime. Il est très possible que vous ayez entendu un sermon pendant la fête sur la justice ou sur le fait de juger dans le monde de demain. Ce n'est pas vraiment un sujet rare à la fête. Je l'ai déjà abordé moi-même et je l'ai aussi entendu auparavant. Et j'y pensais à nouveau lorsque j'ai reçu cette petite carte du palais de justice du comté de Grayson il y a quelques semaines. J'ai donc dû m'absenter du travail un matin pour me rendre au tribunal avec environ 150 autres personnes pour écouter la greffière nous remercier d'être venue, nous expliquer nos devoirs, les procédures, énumérer toutes les dispenses possibles pour ne pas faire partie du jury, et aucune pour laquelle je remplissais les conditions requises d'ailleurs. Mais il y a au Texas une loi stipulant qu'après 75 ans, vous n'êtes pas obligé de faire partie du jury. Je ne m'en suis donc pas sorti de cette façon. Une douzaine de personnes sont sorties du groupe, et puis la greffière a annoncé que si quelqu'un avait une autre raison, il devrait alors en parler au juge. Elle a ensuite expliqué qu'ils avaient un programme informatique qui sélectionnerait au hasard 70 noms, et que parmi ces 70 noms, ils constitueraient un groupe à partir duquel 12 jurés et 2 suppléants seraient sélectionnés. Et si votre nom n'était pas appelé, alors vous pouviez partir. Elle a donc commencé l'appel et tout le monde semblait compter au fur et à mesure. Vous savez, c'est la loterie à laquelle personne ne semble vouloir vraiment gagner. On peut presque entendre les gens penser, il en reste 30, 20, 10, 5. Et lorsqu'elle est arrivée au numéro 68, au fond de la salle, on a pu entendre ce « Ah !» Et tout le monde dans la salle s'est mis à rire, y compris la greffière, parce qu'on voyait bien que cette personne disait en fait « Ah, ce n'est pas moi. » Finalement, le dernier nom a été appelé, ce n'était pas moi, j'ai donc pu m'esquiver sans devoir prononcer devant le juge le petit discours que j'avais préparé. Et je l'avais déjà prononcé il y a une vingtaine d'années à Sacramento, en Californie, lorsque je n'ai pas eu la chance d'être excusé cette fois-là. Et nous avons des principes bibliques à la disposition des membres de l'Église concernant le devoir de jurer. Ces principes constituent l'une des deux raisons pour lesquelles je ne peux pas, en toute bonne conscience, siéger dans un jury pour juger quelqu'un. Vous savez, les raisons bibliques suffisent à elles seules. Mais dans la situation dans laquelle je me trouvais il y a une vingtaine d'années, c'est une autre raison qui m'a permis d'être excusé. Nous avons reçu nos instructions par courrier, où il était indiqué que 100 personnes seraient convoquées chaque jour pour faire partie du jury, jusqu'à ce qu'un jury soit constitué. Et nous devions, tous les soirs, vérifier nos emails, nos courriels, tous les soirs, pour voir si nous devions comparaître le lendemain. Donc, le premier soir, le dimanche soir, j'ai vérifié, non, vous n'êtes pas obligé de venir. Lundi, j'ai vérifié lundi soir, non, vous n'êtes pas obligé de venir mardi, etc. Et enfin, mercredi soir, il a été dit, oui, vous devez venir jeudi matin. Donc jeudi, notre groupe est arrivé. Quand nous étions assis, le greffier a dit, je suis vraiment désolé que vous ayez dû attendre si longtemps, il faut rarement 4 jours pour constituer un jury, mais c'est une affaire différente cette fois-ci, et les avocats sont assez exigeants. Et cela a piqué notre curiosité. Donc le greffier a dit, nous allons vous convoquer par groupe de 12, vous vous asseoirez dans le box des jurés et les avocats des deux parties vous interrogeront. Et quand je suis entré avec mon groupe de 12, le juge a demandé, y a-t-il une raison pour laquelle l'un d'entre vous ne veut pas faire partie du jury? J'ai levé la main et il m'en a demandé la raison. Je ne me souviens pas des termes exacts, mais c'était en substance ceci. Monsieur le juge, je suis désolé, mais d'après mon expérience personnelle, j'ai complètement perdu confiance dans notre système judiciaire pour croire que j'entendrai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et je fonde cela sur une expérience personnelle, dans ma propre famille, où un membre proche a été récemment spolié de ses droits parce que sur la base d'un détail technique, un avocat a réussi à masquer à la cour un élément de preuve crucial. Et l'un des jurés a dit plus tard à ma famille que s'ils avaient su, cela aurait changé leur vote. Je n'ai tout simplement aucune confiance en ce système et je n'en ferai pas partie. Alors le juge a regardé les deux avocats qui lui ont dit « Nous ne voulons pas de lui ». Et donc le juge m'a dit « Vous pouvez disposer ». Les choses se sont plutôt bien passées, je dois le dire. J'étais prêt à me défendre en me fondant sur la Bible, mais je n'ai pas eu à le faire. J'ai découvert peu de temps après la raison de la difficulté à constituer le jury. C'était qu'il s'agissait de trois membres d'un gang d'immigrants russes accusés d'enlèvement et de meurtre sur un vendeur de voitures d'occasion dont ils avaient jeté le corps sur l'autoroute alors qu'il roulait à 110 km/h au milieu de Sacramento. Et c'est là que nous nous sommes souvenus de l'histoire, parue dans les journaux des mois auparavant. Alors, comme je l'ai dit, j'étais prêt à utiliser ma défense biblique, mais j'ai fait une expérience de vie. Et pourtant, cette expérience de vie, quand j'y réfléchis plus tard, ce n'était qu'un exemple d'un des principes bibliques fondamentaux que nous utilisons. On le trouve dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 24. C'est une histoire assez longue, mais je vais juste aborder le nœud du problème ici, où Jésus dit au verset 24, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Jugez selon la justice. C'est un principe très simple à suivre. Si nous ne pouvons pas porter de jugement selon la justice, alors nous ne devrions pas juger. Nous serions face à un problème. Parfois, j'ai entendu des gens commettre l'erreur de dire « Nous ne sommes pas censés juger qui que ce soit. » Eh bien, ce n'est pas vrai. C'est ce que dit Jésus ici. « Jugez, en substance, dit-il, mais jugez selon la justice. » Le sujet, ce n'est pas de juger ou de ne pas juger. Le vrai défi consiste plutôt à juger avec justice. Dieu exerce un système de vie juste et ce système possède des normes. Que ce soit dans une nation, une famille, une église ou concernant une personne. Et pour vivre dans ce système, dans son système, nous sommes censés porter des jugements basés sur ces normes. Et c'est pourquoi un chrétien aura du mal, voire éventuellement ne pourra même pas siéger dans un jury pour déterminer le sort d'un autre être humain accusé d'avoir enfreint une loi humaine. Le problème, c'est que le monde ne nous autorise pas à travailler dans le système de Dieu. On ne peut pas garantir que ce système sera respecté. Donnez-nous la capacité de juger selon les lois de Dieu, son système, selon ses normes, ses principes. Alors oui, nous pourrions juger. Mais où peut-on trouver cela dans le monde d'aujourd'hui? Mais je ne vais pas parler aujourd'hui indéfiniment de la fonction de juré. En fait, c'est le cadet de mes soucis. Et je pense que c'était une bonne illustration et je l'espère une bonne introduction au verset de Jean chapitre 7, verset 24. Mais être appelé à faire partie d'un jury n'arrive que très rarement dans la vie. Et certains ne seront jamais appelés à en faire partie. Je suis par contre beaucoup plus préoccupé par le jugement que nous sommes appelés à porter chaque jour, et souvent de façon multiple. Le jugement fait simplement partie du cours de la vie, et il en est l'un des aspects les plus difficiles. Faire face à la tentation de pécher, c'est probablement le plus grand défi auquel nous sommes tous confrontés. Et la façon dont nous jugeons vient juste après. En fait, c'est souvent étroitement lié, car beaucoup de nos décisions les plus importantes concernant le péché ont trait à la façon dont nous jugeons les situations de tentation dans lesquelles nous nous trouvons. et notre propre force de caractère, afin de pouvoir les gérer. Et parfois, si nous péchons, alors, que faisons-nous? Nous devons porter un jugement à ce sujet, et même toutes sortes de jugements. Parfois, il est difficile d'obéir à Dieu quand on est tiraillé entre ces deux idées. Mais il faut porter des jugements tous les jours. Que faire? Que ne pas faire? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est opportun? Quelque chose peut être bien, mais ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Que faut-il ne pas dire? Mais s'il faut le dire, comment le dire? Tels sont les jugements incessants que nous devons porter. Et s'ils sont injustes ou mauvais, ils pourront nous créer beaucoup de problèmes. Mais si nous portons des jugements justes et bons, alors ils nous faciliteront la vie. Et il y a un autre défi, c'est que la plupart des jugements que nous devons rendre dans la vie surviennent en raison de situations inattendues, qui nous surprennent et qui nous poussent parfois à porter des jugements rapides. Vous savez, on reçoit rarement un courrier 3 semaines à l'avance au sujet d'un jugement que nous allons devoir porter. Combien de fois Dieu vous a-t-il révélé que dans 3 semaines, au déjeuner, vous parlerez à quelqu'un qui commencera à bavarder, à dire des ragots sur un autre membre de l'Église? Vous seriez prévenu à l'avance, pourquoi pas, pour que vous puissiez vous préparer à rendre votre jugement? Tiens donc, car vous allez devoir décider s'il est approprié ou non pour vous d'entendre cela. Vous allez devoir vous poser plusieurs questions. Vous allez devoir vous demander, ai-je le droit d'entendre cela? Mais aussi, est-ce que j'ai besoin d'entendre cela? Vous allez devoir vous demander si cette personne devrait parler de cela. Et il faudra que vous sachiez ce qu'il faut faire. Quelle est la chose juste à faire face à une situation injuste? Il va y avoir toutes sortes de décisions que vous allez devoir prendre sur le moment. Et bien sûr, vous allez être prévenu 3 semaines à l'avance, mais oui, pour que vous puissiez faire vos recherches, prier à ce sujet, pour y réfléchir, pour voir comment vous allez gérer tout cela. Eh bien, non, je ne sais pas pour vous, mais moi, cela m'arrive rarement. Au lieu de cela, tout d'un coup, nous nous trouvons dans une situation où nous nous demandons, que faut-il faire? Les choses dérapent dans une certaine direction. Et nous n'avons pas beaucoup de temps pour nous préparer. Mais les paroles de Jésus sont tout aussi vraies à ce moment-là, comme à tout autre moment. Jugez selon la justice. Vous pourriez probablement trouver des dizaines d'exemples. Nous devons rendre des jugements juste tous les jours et parfois plusieurs fois par jour. Apprendre à juger selon la justice est une bonne chose. C'est l'une des clés les plus importantes pour mûrir spirituellement, pour se convertir, pour croître, devenir une église plus forte. C'est ce que je veux examiner aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un jugement selon la justice? À quoi cela ressemble-t-il? Comment développer cela? Pourquoi est-ce si important? Et j'espère pouvoir nous donner quelques concepts sur lesquels nous pourrons réfléchir et afin d'approfondir notre propre étude et notre méditation. La Bible dit très clairement qu'il y a 3 domaines dans lesquels nous devons faire preuve de jugement. Nous le devons, car nous nous trouvons dans des situations qui exigent que nous portions des jugements sur ce qui est bien et sur ce qui est mal dans le monde. Des événements s'y produisent constamment. Nous devons porter des jugements, prendre des décisions. Est-ce bien? Est-ce mal? Et pourtant, en regardant le monde dans son ensemble, en comprenant qu'il est aveuglé et plongé dans l'ignorance, nous jugeons aussi un autre domaine qui est un peu différent. Car il nous faut porter aussi des jugements sur ce qui est bien, sur ce qui est mal dans l'Église. Nous sommes censés le faire, nous devons le faire, en raison de la connaissance, de la compréhension. Les normes, en raison de la connaissance et de la compréhension, les normes dans l'Église sont plus élevées que celles du monde. Ce monde aveuglé, Dieu sait très bien qu'il est limité. Mais quant à ceux qui sont informés, qui sont conscients, qui ont pris un engagement, leur appartenance au corps de Christ à un prix bien plus élevé qu'une appartenance au monde. Le niveau d'exigence y est bien plus élevé, et la présence d'une personne dans l'Église présuppose que déjà elle s'engage à suivre Dieu. Mais je crois que chaque personne dans cette salle, en fait tous ici, vous vous êtes engagés à suivre Dieu. Vous ne seriez pas ici le jour du sabbat autrement, s'il n'y avait pas un certain niveau d'engagement déjà. Nous le croyons tout en sachant que les attentes sont plus élevées. Vos attentes à mon égard sont plus élevées parce que je suis dans l'Église et non pas dans le monde. Et c'est une bonne chose. Il est également bon de se rappeler que les autres nous imposent des normes plus élevées. Et cela devrait être aussi une bonne chose. Dieu nous dit que le jugement a commencé par la maison de Dieu. C'est un niveau différent de jugement par rapport à celui qui viendra plus tard pour le monde. Et puis, le troisième domaine de jugement, nous devons juger le bien et le mal que nous voyons en nous-mêmes. Il y a une façon dont nous sommes censés nous juger nous-mêmes. Développer notre capacité de juger selon la justice dans ces trois domaines, c'est très important, et pour plusieurs raisons. Premièrement, nous serons confrontés à des situations qui exigeront de notre part des décisions et des actions. Un jugement juste et bon mènera à de bonnes décisions. Un jugement aussi injuste que mauvais mènera à de mauvaises décisions, avec des conséquences. Ainsi, les jugements que nous portons ont des conséquences. Je voudrais vous encourager à examiner une histoire de votre choix dans la Bible, qu'elle s'avère bonne ou mauvaise d'ailleurs, et vous verrez que des jugements ont été rendus dans le cadre de ces récits particuliers. Ils ont conduit à des conséquences, bonnes ou mauvaises selon les cas. C'est important, nos jugements affectent la vie des autres. Autrement dit, dans nos relations avec nos frères et sœurs, nous sommes redevables envers eux de pouvoir apprendre à juger avec justice. C'est aussi important parce que si nous voulons contrer l'influence du monde qui nous entoure, nous devons exercer des jugements lucides, des jugements clairvoyants. Non seulement le monde ne sait pas juger ce qui est bien et ce qui est mal, mais l'esprit des gens est plongé dans un état de confusion, de chaos, de dispute sur le sujet de ce qui est bien et ce qui est mal. Déjà, les gens n'arrivent même plus à juger correctement. Sans compter le fait que nous vivons maintenant dans un monde devenu de plus en plus critique. Cela ne concerne pas seulement les membres de l'Église, mais le monde et ses vieilles attitudes de jugement. Et l'autre jour, j'ai lu plusieurs articles d'opinion, des essais, des recherches, montrant que le monde devient de plus en plus critique. Et les gens le remarquent. C'est devenu omniprésent. Et l'effet sur les cœurs est visible. Les gens s'endurcissent. Et cela ne devrait pas nous surprendre, car lorsque nous nous souvenons des avertissements de Jésus, selon lesquels, au temps de la fin, et parce que le péché abondera, l'amour de beaucoup se refroidira. Tout cela vient de l'injustice dans les jugements. L'abondance du péché est surtout due à l'injustice dans les jugements. Et celle-ci provient en grande partie d'un comportement médisant et qui prédomine partout, un comportement critique. Cela peut déteindre sur nous très facilement. C'est important parce que, à mesure que le monde qui nous entoure devient de plus en plus confus quant à la façon de juger même les choses les plus élémentaires, du bien et du mal, eh bien, les pressions sociales, les attitudes peuvent affecter notre propre jugement. Elles peuvent l'affaiblir. Elles peuvent le compromettre. Les gens sont dans l'errance, ils errent dans la confusion, parfois excessifs dans leur façon de juger, et puis le moment suivant, disant tout simplement « Mais qui suis-je pour juger ?» Ah, vous savez, en entendant cela, vous vous demandez si vous n'avez pas reçu un coup du lapin. Des propos lourdement moralisateurs pour commencer, et puis tout à coup vous entendez cette réflexion « Mais qui suis-je pour juger ?» Eh bien, laissez-moi vous poser cette question. Qui suis-je pour juger? Frère, vous et moi, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Et l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens que nous jugerons les anges. Et à plus forte raison les choses de cette vie, nous devons juger. Mais nous devons apprendre à juger avec justice afin de réussir dans notre vie spirituelle aujourd'hui et dans le millénium demain. Comme Dieu l'a dit à Israël dans Lévitique chapitre 19 et verset 15, Lévitique 19, 15, « Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand. » Et puis il est dit, « Mais tu jugeras ton prochain selon la justice. » Et c'est ce dont Christ a parlé dans Matthieu, chapitre 7, quand il a dit, « Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. » Il ne s'agit pas de condamner, il ne s'agit pas de critiquer, mais il s'agit de juger selon la justice. Or, qu'est-ce que cela veut dire? Tu jugeras ton prochain selon la justice. Et puis comment procéder, comment faire? Il y a beaucoup de choses à considérer. Commençons par la compréhension des éléments qui constituent un jugement selon la justice, et dont je voudrais vous donner une liste non exhaustive, mais elle est tirée de la parole de Dieu à partir d'au moins, 10 facteurs qui compromettent un jugement juste, qui conditionnent un jugement juste. Et puis, nous examinerons quelques exemples et des directives. Et cette liste n'est pas classée par ordre d'importance, car elle nous montre que n'importe lequel de ces exemples, en fait, peut fausser le jugement selon la justice, et à tout moment. Il faut donc tous ces éléments positifs pour aborder un jugement juste. En voici les facteurs. L'apparence par rapport au cœur, la juridiction, l'empathie et la miséricorde, l'épreuve, le temps, les émotions, l'impartialité, la justice, l'hypocrisie et finalement l'examen personnel. Si vous ne les avez pas tous notés, j'y reviendrai. Tous ces facteurs font partie intégrante de ce qui constitue un jugement selon la justice. Ah, maintenant, une liste qui contient 10 éléments dès le départ, cela vous dit que le sujet va être assez complexe. Le jugement selon la justice, c'est un sujet difficile, et c'est une bonne chose. Alors, examinons-le d'un peu plus près. Commençons par les paroles de Jésus. Ne jugez pas selon l'apparence. Alors voilà un facteur crucial qui impacte le jugement selon la justice. C'est facile à comprendre. Souvenez-vous quand Samuel a passé en revue les fils d'Isaï pour choisir le prochain roi à la place de Saül. Il est venu vers Éliab et il a commencé à se dire en lui-même, certainement loin de l'Éternel, loin de l'Éternel est ici devant lui. L'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. » C'est difficile de ne pas regarder l'apparence. Il dit, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'une des raisons pour lesquelles nous ne regardons pas au cœur, eh bien, c'est que c'est très difficile à faire. En fait, bien souvent, l'un de nos plus grands défis, c'est de se rendre compte que nous ne pouvons pas voir le cœur. C'est là que ça devient vraiment compliqué. Les humains ont non seulement tendance à porter des jugements sur l'apparence extérieure, mais nous trouvons aussi très facile de juger les cœurs, les intentions, les motivations de quelqu'un, son caractère, et de se dire, eh bien, il a fait cela parce que, point de suspension. Et c'est là que ça devient compliqué, car cela nous emmène parfois dans un lieu inconnu ou dans un domaine qui dépasse notre juridiction, et nous allons aborder le sujet de la juridiction d'ici une minute. C'est Dieu qui juge le cœur. Jérémie chapitre 11, verset 20. Notez bien ce verset. Jérémie chapitre 11, verset 20 dit ceci. Mais l'Éternel des armées est un juste juge. Et que dit-il après? Qui sonde les reins et les cœurs. Dieu a la capacité de juger selon une justice bien supérieure à la nôtre. Car même si nous voyons les actions de quelqu'un, nous ne pouvons pas, en fait, voir ce qui se passe dans le cœur de la personne. Je vais maintenant vous expliquer un peu l'exception à cette règle, dans un instant. Mais Dieu voit tout, et c'est pourquoi les humains doivent être très prudents à ce sujet. Dieu peut tester l'esprit et le cœur parce qu'il peut voir ces choses. Pouvons-nous voir le cœur de quelqu'un d'autre? Sur un plan formel, nous savons très bien que c'est impossible. Mais laissez-moi vous donner une illustration. Ceux d'entre vous qui sont de ce côté-ci de la salle, je veux que vous vous tourniez pour regarder les gens de ce côté-là. Et vous qui êtes de ce côté-là, je veux que vous vous tourniez pour regarder les gens qui sont ici. Mais ne fixez pas quelqu'un du regard, choisissez plutôt deux ou trois personnes, et nous connaissons tous ici. Et pendant que vous les regardez, j'aimerais que vous vous écriviez les réponses à ces questions. Que se passe-t-il dans leur esprit en ce moment? Que se passait-il dans leur cœur jeudi soir à 22h? Combien de temps ont-ils prié ce matin? Pour quelles raisons ont-ils prié? Vous ne vous regardez pas les uns les autres. Quand se sont-ils repentis pour la dernière fois? À quel point était-ce sincère? Vous savez, je pense que vous comprenez l'idée. Je ne vois personne noter les réponses, n'est-ce pas? Quelle que soit la personne choisie de l'autre côté, nous ne savons pas. Mais vous savez, vous vous êtes peut-être demandé, quelqu'un me regarde en ce moment aussi en pensant, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Qu'est-ce qu'il a dans le cœur? À quoi pense-t-il? Est-ce que quelqu'un peut savoir ce que vous aviez dans la tête jeudi soir? Quelqu'un a-t-il pu entrer dans votre esprit au cours des dernières 24 heures? Y a-t-il eu dans notre esprit quelque chose que nous sommes soulagés de pouvoir garder privé pour nous-mêmes? Mais bien sûr. Et c'est un défi. Nous sommes tellement contents de savoir que, non, personne ne sait ce que nous aimerions garder privé. C'est un défi. Nous ne pourrions jamais inventer une machine capable de nous dire en analysant quelqu'un, voilà exactement ce qu'il y a dans son cœur. Non, Dieu a cette capacité de voir des choses qui affectent ses propres jugements à lui et qu'aucun d'autre nous ne peut voir. Une fois changé en être spirituel, oui, nous aurons probablement cette capacité, certainement. Je suppose. Mais pour le moment, en tant qu'être humain, nous devons reconnaître ceci. Ma capacité à voir tout ce qui se passe dans la vie d'une personne en rapport avec ce qu'elle fait maintenant, eh bien, c'est extrêmement limité. Je ne sais pas. Je peux voir ce qu'elle fait, mais il y a toute une partie manquante que je ne vois pas. Nous pouvons voir ce que les gens font, nous pouvons entendre ce qu'ils disent, nous pouvons lire ce que les gens écrivent, et certaines choses sont assez faciles à juger. Je peux juger assez facilement quand quelqu'un prend le nom de Dieu en vain. J'ai compris cela, j'ai compris le processus. Mais quand j'entends quelqu'un prendre le nom de Dieu en vain, je peux juger de cela. Je peux juger aussi si je le vois voler à l'étalage. Il vient de transgresser un commandement. C'est un jugement réussi à faire selon la justice. Mais je ne peux pas voir si quelqu'un est avide ou s'il convoite. La convoitise, c'est mental. Ça se produit dans l'esprit. Je n'ai pas la capacité ou la juridiction de pouvoir juger le cœur parce que je ne peux pas le voir. Et l'une des règles du jugement selon la justice, c'est donc d'être très conscient de soi-même, de faire attention lorsqu'on juge le cœur. Je dois faire attention à ne pas juger les motivations. Ils ont fait cela parce que, point de suspension, non, je ne peux pas le voir. Mais une des exceptions à la règle concernant le jugement du cœur, c'est que les actions, les aveux des gens peuvent parfois révéler ce qu'il y avait dans le cœur au moment de l'action. Au fil du temps, un comportement peut révéler le contenu du cœur. Les paroles d'une personne peuvent le révéler. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche peut donc dire des choses très positives. Elle peut confesser, voilà ce que j'ai fait, je suis désolé de l'avoir fait, j'étais jaloux, ou bien j'avais peur, j'ai commis cette erreur parce que j'avais honte, etc., etc. Quelqu'un peut vous dire ce qu'il avait dans le cœur. Et si c'est vrai, alors vous avez une base pour juger ce qu'il y avait dans le cœur. Ou des actions répétées peuvent vous dire, voilà déjà 4 fois que ces gens sont allés en prison pour un détournement de fonds, eh bien, leur cœur est rempli de convoitises. C'est facile, ce n'est pas rendre un jugement difficile. Mais sur le moment, nous ne pouvons pas regarder quelqu'un et dire, oui, je le vois, il est en train de convoiter, là, maintenant. Il est en train de me haïr, même. Non, nous ne pouvons tout simplement pas dire cela. Nous devons donc faire preuve de prudence. Vous savez, juger le cœur, c'est la principale chose qui conduit les gens à condamner quelqu'un. Et ça devient dangereux. J'ai déjà mentionné la juridiction. La juridiction consiste simplement à pouvoir juger. Est-ce que c'est ma responsabilité de juger? Jusqu'où ma juridiction va-t-elle dans mes conclusions? Deutéronome chapitre 17 verset 8, Deutéronome 17, 8, Moïse a parlé de la présence de juges dans le pays. Il a dit, vous savez que parfois des choses se présentent et elles sont trop difficiles pour que vous sachiez quoi faire. Il a dit, dans un cas comme celui-là, il peut y avoir matière à contestation. Et il dit au verset 8, si une cause relative à un différend te paraît trop difficile à juger, fournit matière à contestation, et cela pourrait poser des difficultés, cela aussi fait partie du jugement selon la justice, afin d'exercer la justice. Quelle est la punition dans de tels cas, quand il y a matière à contestation? Et il dit, tu iras vers les sacrificateurs, les lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge, tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Autrement dit, il y a un moment où je me rends compte que je n'ai pas assez d'informations, je ne suis pas sûr du tout de tout bien comprendre, je vais donc devoir passer l'information à quelqu'un d'autre. Et mon rôle s'arrêtera là. Certes, je peux voir certaines choses en apparence, mais ai-je connaissance de tous les faits? Ai-je l'autorité, la capacité de porter un jugement à ce niveau de difficulté? Suis-je le mieux placé pour décider de ce qui est juste pour cette personne, pour la famille ou pour la congrégation? Un autre facteur. Ai-je le niveau d'empathie nécessaire? Allons au psaume 103, où Dieu est celui qui nous juge avec justice. Il existe de nombreux passages écrits à ce sujet, mais ici, dans psaume 103, verset 10, psaume 103, « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Oui, Dieu est un juste juge. Si nous considérons simplement le jugement ainsi, voici le bien, voici le mal, et voilà la sanction, c'est la même chose à chaque fois pour tout le monde. Eh bien, nous pouvons faire une erreur de jugement. Pourquoi? Parce que Dieu dit ici qu'il n'agit pas toujours ainsi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui peut bien entrer en jeu et changer les choses? Verset 11, « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » La crainte fait aussi partie du cœur. Puis-je savoir en regardant quelqu'un à quel point il craint Dieu? Non. Mais Dieu le sait. Et il peut faire miséricorde. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il y a une condition. Si quelqu'un craint Dieu dans son cœur, Dieu le voit. Et cela peut changer sa décision sur son traitement de quelqu'un. Verset 14, « Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » Il se souvient que nous sommes poussière. Dieu en tient compte lorsqu'il juge. Comment est-ce que je vais les traiter? La miséricorde fait partie du jugement. Vous savez, la femme adultère, son histoire, la façon dont Jésus a géré la question, c'était un parfait exemple de ce que Jacques a écrit dans sa lettre, chapitre 2, verset 13, quand il dit « Car le jugement est sans miséricorde, pour qui n'a pas fait miséricorde, la miséricorde triomphe du jugement. » C'est une chose profonde à laquelle il nous faut réfléchir. Parfois, les gens ont du mal à différencier la miséricorde et la clémence. Il y a là aussi une grande différence. Vous voyez, cela nous amène à réfléchir à des choses plutôt profondes. Comment est-ce que je vais gérer tout cela? Maintenant, nous pourrions passer beaucoup de temps à décortiquer cette histoire de la femme adultère, ce récit. Je pense que vous savez de quoi il s'agit. Si ce n'est pas le cas, revenez en arrière, examinez ce récit. Mais il y a des principes qui sont à l'œuvre dans cette histoire avec le groupe de personnes qui étaient les accusateurs et la femme et Jésus, à qui on a confié cette affaire pour qu'il rende un jugement. Leur motivation était différente, leurs attitudes étaient différentes. Il a traité cette femme d'une manière et il a jugé sa situation d'une manière dont quelqu'un d'autre aurait pu dire que cette personne devait être tout simplement lapidée selon la loi. Et c'est aussi un domaine dans lequel la compréhension du plan de Dieu affecte notre jugement du monde qui nous entoure. Nous venons juste de rentrer de la fête. Et l'une des leçons du dernier grand jour, c'est que Dieu va donner aux gens la chance, pour la première fois, d'être réorientés dans la vie, d'apprendre, d'être éduqués, d'ouvrir leur compréhension à sa voie de vie. Et comme ils n'ont jamais eu cette chance, il va la leur donner. Les gens font beaucoup de choses qui méritent la peine de mort, mais ils sont aveuglés, ils le font dans l'ignorance. Et Dieu, dans son plan, exerce la miséricorde de cette façon. Je vais leur redonner la vie afin qu'ils aient une véritable chance d'apprendre. Ceux qui n'apprennent pas, ils vont atteindre le bout du rouleau en ce qui concerne la miséricorde. Ceux qui réagissent, nous savons qu'ils auront la possibilité de devenir des enfants de Dieu et d'avoir la vie éternelle. Et cette perspective façonne notre vision du monde d'aujourd'hui. Nous devons juger clairement ce qui est bien et ce qui est mal dans le monde. Nous devrions avoir une vision claire de ce qui est bien et de ce qui est mal. Certains font telle chose, c'est mal, mais tout en gardant l'esprit qu'ils sont aveugles pour le moment. Le monde ne comprend pas. Mais entre ce qu'ils font et notre discernement entre le bien et le mal, nous ne condamnons pas. Jésus lui-même l'a dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour le sauver. Son œuvre est miséricordieuse. Un autre élément, est-ce que j'ai bien tous les faits? Proverbe chapitre 18, verset 17, dit ceci dans la version Osterwald, « Celui qui plaide le premier paraît juste. » Et ensuite, que se passe-t-il? Mais sa partie vient et l'examine. Vous savez ce que cela signifie généralement? Qu'un ensemble de faits nouveaux a été présenté. Et cela pourrait être de cette façon. Ah, vous savez, ce que vous avez dit, c'était juste, mais vous avez omis des choses vraiment importantes. Et voici maintenant tous les faits. C'est vraiment essentiel. Christ a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Nous connaissons l'expression. Dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Ce n'est pas une expression biblique, mais c'est un principe biblique, car la vérité signifie toute la vérité, non pas des parties omises ici et là pour influencer une opinion. Et rien que la vérité signifie qu'il y a un tri qui s'opère. Parfois, il faut séparer la vérité de l'erreur, car l'erreur peut être mêlée à la vérité. Et nous devons arriver au point où il n'y a plus que la vérité. L'erreur a été éliminée, et c'est vraiment d'une importance cruciale. Et cela nous rend libres, dit-il. Eh bien, cela peut impliquer beaucoup de choses. Cela peut vous libérer du péché. Mais cela implique aussi de recueillir tous les faits, de creuser la vérité, ce qui nous libère des erreurs de jugement. Avez-vous déjà porté des jugements et découvert plus tard que vous n'aviez pas toutes les informations? Ça change les choses, n'est-ce pas? Si vous avez été un père ou une mère, vous savez que cela arrive dans la vie. Voyons maintenant un autre facteur déjà mentionné. Est-ce que je prends le temps de juger selon la justice. Vous savez, se précipiter pour juger, c'est tentant, mais le facteur temps est important dans le bon jugement. Proverbe chapitre 18, verset 13, Proverbe 18, 13, « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. » Les jugements irréfléchis entraînent des résultats très embarrassants. Vous savez, l'ancienne juge de la Cour suprême aux États-Unis, Ruth Bader Ginsburg, a dit un jour, « L'un des aspects du jugement en appel, c'est que nous devons motiver toutes nos décisions. » Et lorsque vous vous asseyez pour l'écrire, vous découvrez parfois que votre première décision n'était pas la bonne. C'est intéressant, n'est-ce pas? Les juges de la Cour suprême aux États-Unis doivent écrire les raisons pour lesquelles ils ont pris leur décision. Ils doivent la justifier. Et quand j'ai lu cela, je me suis dit, eh bien, si j'avais cette obligation pour chaque décision que je prends, je ferais probablement de meilleurs choix. Si j'en avais l'occasion, mon jugement serait sans doute bien meilleur. En d'autres termes, laissez-moi réfléchir très attentivement, laissez-moi écrire toutes les raisons pour lesquelles je rends ce jugement là maintenant. Malheureusement, bien souvent, nous n'avons pas ce luxe. Nous n'avons pas le luxe de nous accorder ce temps. On ne peut pas prendre de pause dans la vie vraiment et dire « Attendez, je vous recontacterai semaine prochaine après avoir vraiment réfléchi à tout ça. » Et parfois, nous devrions faire cette pause. Nous pourrions le faire. Un autre facteur déjà mentionné concerne les émotions. Les émotions affectent-elles mon jugement? Avez-vous déjà mal jugé à cause d'un manque de contrôle émotionnel? Une autre forme de jugement irréfléchi. Moïse a rendu beaucoup de bons jugements, mais comme tout être humain, il pouvait avoir ses faiblesses. Et dans le livre des Nombres, au chapitre 20, il était tellement en colère contre les gens qu'il a pris le bâton de Dieu, et contre les instructions de Dieu, il en a frappé deux fois le rocher. Et il a dit, « Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Et ce faisant, il a totalement manqué de respect à Dieu par rapport à ce que Dieu lui avait dit. Et cette erreur, due à un jugement irréfléchi, a coûté à Moïse, à son frère Aaron, l'opportunité d'entrer dans la terre promise. Il s'est mis en colère, il était concentré sur le peuple au lieu de se concentrer sur ce que Dieu lui avait dit. Il a pris les choses personnellement. Tout cela a affecté son jugement sur la façon dont il devait gérer la situation, pas sur le fait de savoir si le peuple avait raison ou tort. Et donc, il a mal géré sa part de responsabilité. Ensuite, nous en arrivons à cet autre aspect de la justice. Quelle peine peut-elle être appliquée, peut-elle être prononcée? Vous savez, parce que l'administration de la justice fait partie du processus de jugement. En d'autres termes, vous pouvez traverser tout le processus, tout est en place, ça peut être parfaitement juste, mais ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez décider comment agir, quelle est la bonne marche à suivre? La punition est-elle adaptée au crime ou à l'attitude? Comment procéder? Ce sont toutes des décisions de jugement. Ou encore, cette expression courante aujourd'hui qui convient si bien, ce sont des sentences, des décisions de justice. Avez-vous déjà vu une situation où deux personnes pourraient être coupables de la même infraction, mais l'une aurait reçu un traitement différent de l'autre? Et on pourrait dire, eh bien, c'est injuste. Mais ce n'est pas injuste si l'une des personnes est repentante et humble, et si elle a avoué, si elle essaye de réparer les choses, quand l'autre reste têtu, obstiné. Vous avez deux réactions différentes qui entrent en jeu dans la question, quelle justice maintenant appliquer pour l'une et pour l'autre? Les parents doivent constamment porter des jugements, n'est-ce pas? Nous le savons. Sur les sanctions à appliquer pour les fautes de leurs enfants, quelle punition est-elle correcte? Quelle punition est-elle appropriée? Qu'est-ce qui leur permettra d'apprendre une leçon? Quelle sera la bonne mesure de dissuasion proportionnelle à la faute? Ce sont des considérations importantes, car notre sens de la justice aura un impact sur l'enfant, comme d'ailleurs sur toute autre personne. Un autre facteur concerne l'impartialité. Suis-je juste? Puis-je être totalement impartial dans ma façon de voir les choses, ou suis-je juge et parti? Vous savez, il est très facile d'accuser quelqu'un qui ne prend pas une décision en votre faveur et de dire, eh bien, vous avez un parti pris de toute façon pour ces gens. Vous savez, c'est important. Dans Deutéronome chapitre 16, verset 19, lorsque Moïse parlait aux juges, Deutéronome 16, 19, il leur dit, « Tu ne porteras atteinte à aucun droit. » Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes, tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages. Une personne peut être sage, mais si elle trébuche à un moment donné et fait preuve de favoritisme, cela peut donc affecter, aveugler les yeux même des sages, et, dit-il, corrompre les paroles des justes. La Bible a beaucoup à dire à ce sujet. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je recommande une étude attentive de l'Épître de Jacques, chapitre 2, pour considérer avec quelle force Dieu aborde la question de la partialité. C'est un sujet vraiment grave aux yeux de Dieu. Et vous savez, ce qui est intéressant, l'impartialité est une partie si importante du jugement selon la justice que c'est une question interne pour le juge. C'est important. Il est important d'être impartial parce que la partialité n'aboutira pas à un jugement juste. Je ne vais pas trop parler de l'aspect suivant, qui est celui de l'hypocrisie. On pourrait en dire beaucoup et donner de nombreux exemples. Je pense que nous savons tous que Dieu ne tolère pas l'hypocrisie. Tout se résume au dernier point que j'ai déjà mentionné, c'est l'un des facteurs importants pour juger de manière juste, l'examen personnel. Nous pouvons être amenés à juger une situation extérieure, mais simultanément, nous devons aussi nous juger nous-mêmes. Plusieurs des points que j'ai mentionnés qui entrent en jeu dans le jugement selon la justice n'ont rien à voir avec la situation avec la personne jugée. Ils ont trait à ce qui se passe dans l'esprit du juge, dans l'esprit de la personne qui juge. L'empathie, l'état émotionnel, l'impartialité, l'hypocrisie, le fait de regarder à l'apparence plutôt que de regarder au cœur, ce sont tous des facteurs propres au juge qui entrent en compte dans le cadre global du jugement. Mais ils sont d'une importance cruciale. 1 Corinthiens 11, 31 dit « Car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Or, le contexte, je le sais bien, c'est celui de la Pâque, mais ce principe est valable pour toute la vie. Pour juger avec justice, je dois avoir une conscience très aiguë de moi-même dans le cadre de mes responsabilités. Vous savez, Jésus en a parlé dans l'un de ses discours les plus célèbres de la Bible sur le jugement dans Matthieu chapitre 7, le sermon sur la montagne. Il a demandé à la foule qui était là, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Il n'a pas dit « Ne regardez pas l'œil de quelqu'un d'autre ». Il a dit « Il faut que tout soit équilibré en substance ». C'est ce qu'il a dit. Bon, nous voyons des tâches, nous voyons des problèmes. Il a dit « Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ?» Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Nous avons parfois la responsabilité d'enlever la paille de l'œil de notre frère, autrement dit, de juger quand notre frère fait quelque chose de mal, afin de l'aider à remettre son œil en état. Mais il dit, faites attention, assurez-vous que vous restez prudent dans votre jugement, faites les choses correctement. Je dirais que cela est directement lié à notre situation personnelle. Est-ce que je suis partial? Est-ce que je suis empathique? Ai-je assez de miséricorde? Quel est mon sens de la justice? Tous ces facteurs doivent être en place afin de pouvoir juger selon la justice. Ce sont des éléments qui nous aident à accomplir la déclaration dans Proverbes chapitre 16 au verset 10. Proverbes chapitre 16, verset 10. Des oracles sont sur les lèvres du roi. Des oracles sont sur les lèvres du roi. Sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Sa bouche ne doit pas être infidèle. Il y a beaucoup d'éléments importants qui entrent en jeu lorsque le jugement est rendu pour s'assurer qu'il n'y a pas de transgression et que c'est un jugement juste et pur. Alors, comment pouvons-nous éviter d'être infidèles dans notre jugement? Que pouvons-nous faire pour croître? Bien sûr, les choses dont nous avons parlé sont à considérer. Il nous faut méditer, travailler sur ces bases. Il y a deux grands principes qui en découlent. Le premier consiste à prier, et le second revient à persévérer. Prier et persévérer. Mais pourquoi? Pour quelle raison prions-nous? Le roi David écrit au psaume, dans le psaume 119, verset 66, psaume 119, 66, il prie devant Dieu, il dit, « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Je crois aux commandements, je sais ce qui est bien, je sais ce qui est mal. Ensuite, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. » Et cela devrait être une prière. « Aide-moi à être conscient. » David a eu l'humilité de savoir qu'il avait toujours besoin de l'aide de Dieu. J'ai besoin que Dieu m'aide. J'ai besoin que Dieu m'enseigne. Et c'est toujours un processus d'apprentissage. L'autre jour, je pensais à ce message. J'espère qu'arrivé à 73 ans, j'ai appris à être moins intolérant tout en devenant un meilleur juge. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons apprendre avec le temps. Nous devons apprendre cela avec le temps. C'est le but. On n'a jamais fini d'apprendre. Et on n'a jamais fini d'avoir besoin de demander à Dieu de nous enseigner la connaissance du bon jugement. Dans 1 Roi chapitre 3, Dieu avait dit à Salomon en songe, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Et Salomon a répondu au verset 9, « Donne à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Donne-moi un cœur intelligent. » Il n'a pas demandé une collection de livres de loi en 20 volumes. Il a dit, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» Juger, c'est difficile. Et la version dans le livre des Chroniques dit ceci dans 2 Chroniques, chapitre 1, verset 10, « Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ?» Et Dieu lui dit, « Puisque tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple, elles te sont accordées. » Maintenant, vous pourriez dire, discerner le bien et le mal. Eh bien, est-ce vraiment difficile à discerner? N'est-il pas facile de dire, ceci est bien, ceci est mal? Pas nécessairement. Pas lorsque quelqu'un dissimule le mal. Parfois, le mal peut être trompeur. Certaines personnes sont douées pour cacher le mal. Quelqu'un m'a-t-il déjà trompé? C'est arrivé, parfois. Des paroles flatteuses, des tromperies, de fausses apparences, et puis, et même, des mensonges. Il est facile de savoir ce qui est bien, ce qui est mal, mais il n'est pas toujours facile de savoir sur le moment quand cela est pratiqué, quand cela est déguisé. Cela se révèle avec le temps. Oui, c'est bien, c'est mal, c'est pourquoi Salomon a prié pour la sagesse. L'apôtre Jacques a écrit, « Si quelqu'un manque de sagesse, levez la main s'il vous plaît, et si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » C'est une prière adressée à Dieu. Demandez-lui la sagesse, demandez-lui le jugement ensuite. Deuxième point, il faut aussi la rechercher. Dieu nous accorde la sagesse lorsque nous la recherchons. Étudiez les principes du bon jugement, car la Bible est remplie d'instructions à ce sujet. Dans Jean chapitre 5, verset 30, Jésus-Christ a dit, « D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Je cherche la volonté de celui qui m'a envoyé. Un bon jugement est basé sur la connaissance de la volonté de Dieu. Ne jamais supposer, mais rester à son écoute, étudier cette volonté, la rechercher. Ésaïe chapitre 51, verset 7. Ésaïe 51, verset 7. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Et ensuite, il la définit. Peuple qui a ma loi dans ton cœur. Donc, en recherchant la loi de Dieu, ses préceptes, ses statuts, ses jugements, ses lois. Alors, à quoi ressemble le système divin? Si nous voulons être les juges de demain, nous devons rendre des jugements justes maintenant. Cela signifie que nous devons aller à la faculté de droit enseignant la loi de Dieu. Proverbes chapitre 1, verset 1 introduit le livre des Proverbes. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Il dit, voici ces paroles, elles sont rassemblées pour nous aider à comprendre l'instruction. Et l'une des choses mentionnées est le jugement. L'instruction et le jugement. Proverbe 15, verset 28. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. Proverbe chapitre 15, verset 28. Il y a donc une méditation, il y a une étude, il y a de la considération, de la prudence dans le cœur du juste. Pourquoi? Pour avoir un bon jugement. Proverbe chapitre 10, verset 32. Les lèvres du juste connaissent la grâce. C'est la sagesse qui l'enseigne. Et vous commencez à rassembler tous ces versets, et il y en a tellement d'autres. Mais cela nous montre que la parole de Dieu devient un véritable filtre pour nous, le filtre à travers lequel nos pensées, nos paroles, nos actions doivent d'abord passer avant de sortir de nous. Nous n'avons pas ce don naturellement, mais lorsque la parole de Dieu est là, lorsque nous l'avons recherchée, lorsque nous en avons demandé la compréhension à Dieu et que nous avons vraiment poursuivi son étude, alors nous pouvons juger correctement de ce qu'il faut dire, comment le dire, quand le dire et à qui le dire. Autant de détails pour obtenir un bon jugement. Par exemple, je vais encore citer l'apôtre Jacques dans Jacques chapitre 1, verset 19. Il écrit « Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à publier sur Facebook, pardon, lent à parler. » Vous savez, je vois parfois des jugements portés dans des réactions publiées sur Facebook. Et je me dis « Mais pourquoi as-tu publié cela ?» Il y a des moments où il nous faut juste ralentir. Et être lent, aller doucement, ralentir. Attends un instant, j'ai besoin d'y réfléchir, d'examiner les choses. Il écrit, prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Cela signifie contrôler ses émotions, les maîtriser. Et ce sont des principes importants du jugement. Eh bien, je n'ai pas le temps de tout aborder dans ce sermon, dont j'ai laissé environ les trois quarts sur l'ordinateur, avec toutes les recherches que j'ai menées. Cela aurait pu justifier une série de trois ou quatre sermons. Il reste beaucoup de choses que nous pouvons tous étudier et sur lesquelles nous pouvons réfléchir. Quelques exemples. Dans Galates, chapitre 6, verset 1. « Frère, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Réfléchissez à tout cela et à tous les éléments de jugement dont nous avons parlé. Demandez-vous comment ils peuvent s'appliquer à ce principe. Matthieu 18, verset 15 à 17. « Si ton frère à péché, va et reprends-le. » Il y a ici trois étapes pour aller vers son frère. J'ai entendu parfois des gens dire, j'ai essayé Matthieu 18, 15, mais en vain. Ensuite, vous commencez à parler avec eux, à sonder un petit peu les choses, vous découvrez les faits, et ils révèlent qu'il n'y a pas eu beaucoup de jugements impliqués dans le processus. Dieu a un système. Matthieu chapitre 18, verset 15. Il fonctionne. Il arrive parfois que nous ne sachions pas le faire fonctionner. Mais le fonctionnement, ce procédé, est en trois étapes. Il implique que de se demander ce qu'il faut faire, comment le faire et comment s'y prendre. Il y a beaucoup de scénarios imaginables dans la vie. On pourrait s'asseoir et parler de toutes ces choses qui se sont produites. Parfois des choses dures, parfois des choses très exigeantes. Et certaines d'entre elles sont vraiment, vraiment importantes. D'autres situations, par contre, sont plutôt insignifiantes par rapport aux premières. Elles pourraient devenir conséquentes si nous ne développons pas un jugement juste et bon, toutefois, un jugement selon la justice. Il peut résoudre un petit problème et calmer la situation, mais un jugement injuste peut rendre une petite situation totalement disproportionnée. Exercer un jugement, c'est dur. Un jour, vous savez que nous aurons l'occasion de demander à beaucoup de patriarches, beaucoup de rois, beaucoup de dirigeants de la Bible, ainsi qu'aux mères et aux pères, de nous parler des situations dans lesquelles ils se sont retrouvés. Et je peux vous garantir qu'à l'exception de Jésus-Christ, toutes les personnalités bibliques ont exercé des jugements plus ou moins bons. Le moment le plus brillant de Salomon dans ses bons jugements a été sa déclaration concernant le bébé. Et ses pires moments le poussaient à vouloir prendre encore une autre épouse, pour aller jusqu'à 300, jusqu'à 700, jusqu'à 1000. Avons-nous vraiment besoin de demander aux autres? Nous savons par nos propres expériences que juger avec justice, c'est difficile. Et c'est dans les choses difficiles de la vie que nous apprenons et que nous grandissons, que nous croissons. Nous mûrissons ainsi spirituellement. Nous apprenons à vivre à un niveau plus élevé que le monde qui nous entoure, un niveau auquel Dieu veut que nous vivions. La justice est exigeante, mais elle est aussi très enrichissante pour tous ceux qui sont concernés. Comme je l'ai dit, je n'ai pas couvert une grande partie du sujet, et je vous invite par contre à consulter le cours en ligne de M. Johnson sur 1 Corinthiens, chapitres 4, 5, 6 et 11, où il aborde en profondeur certains concepts vraiment intéressants sur le jugement, comme l'apôtre Paul l'a écrit à l'église de Corinthe. J'espère que nous allons tous y réfléchir et l'étudier en profondeur, car dans un monde injuste qui ne fait que gâcher les choses, nous avons la possibilité de procéder différemment et d'être en mesure de juger selon la justice.